BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est chacun, certain de passer le restant de nos jours. Et la blockchain en contient une fraction. La blockchain et les cryptos sont donc à l'honneur chaque vendredi sur BFM Business grâce à nos pros des cryptos. Ils sont là. Elle vient de nous rejoindre, Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain crypto pour KPMG France. Il nous accompagne aussi, comme chaque vendredi, Owen Simonin. Bonjour Owen.
Ravie Bonjour.
De trouver à la tête de Just Mining et connu aussi pour votre chaîne YouTube Owen Asher, H-A-S-H-E-U-R. Vincent aussi nous accompagne, Vincent Gann. Salut Vincent.
Salut Guillaume, bonjour à tous.
Analyste technique indépendant. Vincent, on va démarrer peut-être avec vous les cours du Bitcoin qui bataillent pour tenir les 40 000 dollars. Cours du Bitcoin à peine au-dessus des 40 000. L'Ether qui, de son côté, bataille autour des 3 000 dollars. Que nous mijotent les cours des cryptos, Vincent? Quelque chose est-il en train de se préparer d'après vous?
Oui, alors cher Guillaume, effectivement quelque chose se prépare. Vous avez bien résumé le champ de bataille graphique. Ça, c'est un premier point. Pour le cours du Bitcoin, pour alors les auditeurs, les téléspectateurs, le niveau des 40 000 dollars qui est testé, c'est un pivot technique. C'est un niveau que le marché défend depuis une semaine et en fait, même si on prend du recul, depuis le début de l'année, malgré tous les fondamentaux compliqués du moment qui auraient dû faire briser ce niveau. Alors, si je devais prendre l'exemple d'une, enfin pas un exemple, mais parlons métaphore, ce niveau des 40 000 dollars, c'est un peu le bord du gouffre technique. Imaginez le marché crypto personnifié comme un personnage au bord du gouffre. Et regarde dans le vide, il a encore les deux pieds sur la falaise, il peut encore faire un pas arrière. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que si ce seuil des 40 000 dollars cède, il le fera avec volume, avec fracas. Et derrière, ce sera l'assurance de revenir sur les plus bas d'été dernier au niveau des 33 000 dollars. Alors, c'est pas perdu. Encore cette semaine, on s'est fait une petite peur en début de semaine. Si ce niveau tient, il y a encore la possibilité que sur le plan technique, il s'agisse d'une figure, un socle, une figure de renversement aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour ce niveau des 40 000 dollars, dont la traduction est à 3 000 dollars. Pour l'Ether.
Juste à l'instant, il suffisait que vous parliez, Vincent, pour qu'on passe à la baisse, on casse à la baisse ce seuil des 40 000. Ouais, bah bravo. Bonjour les dégâts. Franchement, 39 923 dollars en ce moment, le Bitcoin. Est-ce que Jérôme Powell y est pour quelque chose? Le président de la Fed s'est exprimé hier soir, il s'est montré très ferme, il a parlé d'une possible hausse de taux très forte en mois de mai, peut-être de 50 points de base. Est-ce que vous voyez des mécanismes se mettre en place de plus en plus entre les propos de la Fed, des banques centrales et le marché crypto?
Ah, effectivement, excellente réflexion de votre part. Alors, il n'y a pas un lien direct. Il n'y a pas un lien direct sur le marché crypto. Le marché crypto est encore bien trop jeune pour apparaître quelque part dans la to-do list de la Réserve fédérale des États-Unis. Mais la Réserve fédérale des États-Unis, à travers sa politique monétaire et surtout les perspectives de sa politique monétaire, et à travers aussi les mots prononcés par son président, donc Jérôme Powell, elle influence les marchés boursiers les plus importants du monde, notamment le marché actions. Et donc cette semaine, moi ce que j'ai relevé, c'est que se confirme une corrélation positive historique entre le marché actions et le marché crypto. Et on voit encore aujourd'hui le repli du marché actions met sous pression ce fameux seuil des 40 000 dollars sur le cours du Bitcoin. Autre aspect des choses, c'est les capitaux qui se dirigent de plus en plus vers le dollar américain face à un panier de devises, donc là sur le marché des champs flottants, ce qu'on appelle le forex. Ce fameux niveau des 1,08 dollars que travaille l'euro-dollar, là aussi, c'est le bord du gouffre technique. Je pourrais le comparer aux 40 000 dollars du cours du Bitcoin. Donc, attention, je dirais, aux effets de corrélation sur le marché crypto des classes d'actifs majeures qui, elles, sont sous l'influence des politiques monétaires des grandes banques centrales.
De plus en plus de bitcoins ne bougent plus. Les bitcoins qui dorment depuis un an ou plus dans les portefeuilles représentent quasiment 65% de tous les bitcoins en circulation. Ça a un impact, ça, sur la volatilité du bitcoin?
Oui, alors, effectivement, c'est, vous rappelez déjà un fait important. 65% les bitcoins, on va dire, dorment ou attendent peut-être des choses positives à long terme. Et déjà, rappelons ce qu'est la volatilité, l'amplitude moyenne de variation d'un prix sur une séance de bourse, par exemple, ou encore la différence entre le plus haut et le plus bas. Donc, tout le monde comprend globalement le concept de volatilité. Alors déjà, le marché crypto a une volatilité très élevée lorsqu'on compare aux autres classes d'actifs. Maintenant, effectivement, le fait qu'une partie majoritaire de ces bitcoins soit considérée comme un stock et non pas comme un flux, c'est-à-dire un stock immobilisé sur des portefeuilles et non pas au quotidien dans les flux de transactions, eh bien cela diminue ce que l'on appelle dans le jargon boursier la liquidité d'un marché. Et cette diminution de la liquidité est un facteur d'augmentation de la volatilité. Par contre, pour conclure, le fait que cette partie dominante soit détenue sur des portefeuilles, ça rappelle à quel point la plupart des investisseurs, ça rappelle déjà à quel point sur ce marché il y a des investisseurs, c'est-à-dire ceux qui se projettent à long terme, ceux qui attendent les fameux 100 000 dollars, probablement retardés, pas cette année, mais plus probablement pour l'année prochaine.
Bitcoin qui est passé donc aujourd'hui sous les 40 000 très très légèrement, l'Ether de son côté sous les 2 973 dollars. Évidemment, l'avenir aussi des cours des cryptos dépendra de la réglementation. Quelle réglementation attend les cryptos en Europe? Aurore Laluc, elle est députée européenne, coordinatrice de la commission fiscalité, était tout à l'heure l'invitée de BFM Crypto, notre nouvelle verticale, notre nouveau site internet BFM Crypto. Elle répondait aux questions de notre journaliste Pauline Armandet. Je vous propose d'écouter Aurore Laluc et Owen. Claire, vous réagirez juste après.
C'est un marché de produits financiers, parce que les cryptos, ce ne sont pas des monnaies. La monnaie, c'est de la souveraineté, c'est un objet de politique, au sens noble du terme d'ailleurs, et puis c'est un cours plutôt stable, ce qui n'est pas le cas pour les cryptos. Les cryptos, en fait, donc, c'est un marché d'actifs, de produits financiers instables, hautement spéculatifs et qui donc doit aujourd'hui être régulé comme tel. Et c'est un marché aussi très concentré, contrairement à ce qu'on croit, puisque les 5 plus grandes plateformes aujourd'hui concentrent à elles toutes seules entre 80 et 99% du marché.
Voilà un argument d'Aurore Laluc pour justifier une réglementation dont elle souhaite qu'elle épouse, qu'elle ressemble à la réglementation qui aujourd'hui encadre par exemple le secteur bancaire. C'est ce qu'elle expliquait aussi sur tout à l'heure sur notre site BFM Crypto à Pauline Armandet, notre journaliste. Claire, elle a fondamentalement tort ou quand même fondamentalement raison sur la façon dont il faut arriver à percevoir, à faire entrer les cryptos dans le monde réel?
Alors, elle a raison sur le fait qu'il faut une réglementation. En revanche, on peut noter quand même la contradiction de dire ce ne sont pas des monnaies, mais il faut réguler les acteurs de la crypto comme des banques. On se rend bien compte, là, il y a quand même une contradiction majeure. Et c'est toujours ce fameux débat de est-ce que les crypto-actifs sont aussi des crypto-monnaies, est-ce que ce sont des actifs ou des monnaies. En fait, ce sont des actifs protéiformes qui sont difficiles à appréhender pour le régulateur. Et il faut bien voir que la réglementation financière qui a été créée pour des acteurs centralisés n'est aujourd'hui pas adaptée à cet écosystème complètement décentralisé. Et donc, il faut que le régulateur s'adapte aussi à ce changement de paradigme. Et je pense que c'est ce qui est très difficile ici. Maintenant, on voit bien, là encore, la rhétorique et les arguments qui sont donnés par Aurore Laluc, cette fameuse concentration du marché qui a été débattue, qui est contredite par un certain nombre d'acteurs et d'études dans l'écosystème. Donc voilà, il faut prendre avec des pincettes ces arguments parce que les chiffres là-dessus ne sont pas tout à fait clairs.
Bon, de votre côté, Owen, la réglementation MiCA, les discussions se poursuivent dans les instances européennes pour fixer cette réglementation. Aurore Laluc très active pour faire en sorte quand même de contrôler au maximum, surtout de réglementer et de réguler au maximum l'univers des cryptoactifs. Qu'est-ce que vous retenez de positif dans sa façon de faire les choses et de négatif aussi, on l'imagine?
Dans sa façon de faire les choses, rien de positif. Hein. Pour être très clair, déjà, sa définition de la monnaie est une définition de banque centrale. Hein. Ce n'est pas la définition qu'Aristote donnait de la monnaie, ou du moins, ce n'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que les crypto-monnaies se doivent d'être régulées. Il y a une chose qui est certaine également, si on veut réguler les crypto-monnaies comme on régule un actif financier traditionnel, on va tuer l'écosystème crypto. Donc, c'est une mauvaise approche, une approche qui ne nous permettrait pas de saisir le potentiel du marché de la crypto-monnaie. La dernière chose qu'il faut comprendre, c'est que oui, les crypto-monnaies sont pour la plupart très volatiles, hein, parce qu'on oublie quand même les stablecoins qui représentent le plus gros des volumes aujourd'hui. Ça, on n'en parle pas du tout, peut-être faute de connaissances, je ne sais pas. Mais quand on parle de crypto-monnaies et d'actifs volatiles, il faut comprendre que c'est une très jeune technologie. Les Pandora Papers, un scandale de la finance traditionnelle, c'était 13 000 milliards. Toutes les crypto-monnaies réunies aujourd'hui, c'est 1800 milliards. Si au tout début d'Internet, on avait pris les premiers sites Internet et on les avait considérés comme des actifs, on aurait sûrement dit, ce sont des actifs très volatiles, il faut tout de suite les réguler. On aurait sûrement, à ce moment-là, raté la tendance d'Internet, raté la révolution d'Internet, simplement parce qu'on n'était pas capable de comprendre qu'une jeune technologie peut être très volatile. Malgré tout, il faut un cadre, encore faut-il qu'il soit adapté à cet écosystème.
Claire.
Oui, complètement d'accord avec Owen. Et pour reprendre ce parallèle avec Internet, on oublie parfois, mais à l'époque, il y avait des personnes pour défendre aussi le fait qu'il fallait des cartes de presse, le titre de journaliste pour pouvoir écrire des blogs. Donc il faut bien se rendre compte qu'une nouvelle technologie ne peut pas être régulée comme l'ancienne. Et je reprends aussi l'argument de Madame Laluc sur ce fameux qualificatif de monnaie. Une monnaie n'a pas forcément un cours stable. C'est-à-dire, il y a plein de monnaies dans le monde qui n'ont pas un cours stable, qui sont en train de perdre drastiquement de la valeur. Et pourtant, ça n'empêche pas nos gouvernements de les considérer comme des monnaies. Donc, encore une fois, cet argument-là, il n'est pas valable. Et il faut vraiment que nos régulateurs s'emparent de ces nouveaux outils en comprenant que ce sont des technologies différentes et que c'est un écosystème différent.
Elle est très active, Aurore Laluc, la députée européenne, dans ces discussions pour fixer le cadre de la réglementation. Pourquoi vous ne la rencontrez pas? Vous essayez de la rencontrer? Elle répond à vos demandes?
On serait ravis. Alors, je connais un certain nombre de personnes qui ont essayé de la rencontrer. Je ne crois pas qu'elle ait accepté, sans doute faute de temps, j'imagine.
Elle a répondu au
moins? Ce n'est plus constructif.
Je ne sais pas. J'étais pas dans ces...
Owen?
Elle répond, et pour le coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est plus un débat qui est constructif. Au début, elle s'est adressée un petit peu maladroitement aux crypto-monnaies, mais je n'ai pas eu l'impression, en tout cas, qu'il y avait de mauvais fonds et de mauvaise volonté. Le problème, c'est que la communauté crypto a répondu de façon très virulente à l'inexactitude de certaines informations qu'elle avançait. Mmh. Et depuis, c'est devenu une guerre et donc un échange très contre ou pour les crypto-monnaies. Et de par ce fait, c'est plus un échange qui est constructif, c'est plus un échange qui va vers l'avant. Et donc, comme dans tout discours de sourd, le mieux serait encore de s'y soustraire le plus rapidement possible.
Bon, c'est pour ça qu'on essaie, nous aussi, sur BFM Business, de faire monter en puissance la pédagogie, d'apporter de la visibilité à toutes ces thématiques, la finance de demain, dont on espère que la France en sera l'un des leaders. En attendant cette future réglementation européenne, l'écosystème, d'ailleurs, continue de s'inventer, de s'auto-inventer jour après jour. Après la folie des crypto-monnaies, de la DeFi, des NFT, on voit maintenant l'émergence de nouvelles marketplaces. Une marketplace, c'est un endroit où se lancent les NFT. OpenSea, la plus connue, mais également Binance, Coinbase et même Logan Paul lancent leur propre marketplace de NFT. Pourquoi, Claire, autant de marketplaces? Quelles sont surtout leurs différences, les points qui les distinguent?
Alors, on voit effectivement en ce moment un gros mouvement vers les NFT. Moi, je l'observe même au quotidien avec mes clients. Il y a beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui qui veulent émettre leur NFT. Donc, c'est clairement la tendance du moment. On voit différents types de plateformes. OpenSea, c'est le leader assumé du marché aujourd'hui. On voit des projets se lancer. Logan Paul, justement, qui veut créer une plateforme, par exemple, pour permettre aux gens d'acheter des fractions de NFT. Vous savez qu'il y a des NFT désormais qui se vendent très cher et qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter des NFT qui valent plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Donc là, l'idée, c'est de permettre d'acheter des fractions de ces NFT. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est cette tendance des plateformes d'échange centralisées à aller sur ce marché des NFT. On le voit notamment avec Coinbase et Binance, qui ont des projets de création de marketplace de NFT. Et là, c'est pas tout à fait la même chose qu'OpenSea, puisque sur OpenSea, vous achetez directement votre NFT en Ether. Vous avez votre portefeuille MetaMask qui est connecté au navigateur et vous achetez votre NFT que vous détenez sur votre portefeuille potentiellement. Alors que sur Coinbase NFT, bien sûr, l'idée, ça sera de permettre de faire la détention à votre place. Donc, vous ne détiendriez pas forcément vous-même votre NFT. Vous pourriez potentiellement l'acheter en fiat. Donc, on voit bien que là, c'est du all-in-one. C'est profiter de cette base utilisateurs qui stocke déjà leur crypto sur Coinbase pour leur permettre d'avoir aussi du NFT. Et on voit en termes de volume la différence, puisque sur OpenSea, on a 1 million, 1,5 million d'adresses qui ont interagi avec le portefeuille OpenSea. Sur la waiting list de Coinbase, on est déjà à plusieurs millions, je crois entre 4 et 5 millions de personnes qui se sont inscrites sur cette waiting list. Donc pour OpenSea, qui est le leader du marché aujourd'hui, c'est une vraie concurrence très importante qui est en train d'arriver de la part des grosses plateformes d'échange centralisées.
Et comment, Owen, les professionnels, les personnes qui nous écoutent, les particuliers aussi, peuvent-ils profiter de ces multiples marketplaces? Et est-ce que ce sera les marketplaces vraiment the place to be, le nouvel endroit incontournable, la grosse tendance du futur?
Alors, pour être totalement franc, je ne pense pas. Je pense que c'est une tendance aujourd'hui, oui, parce qu'il y a de plus en plus de produits qui ont besoin de ces marchés secondaires, en fait, ces marketplaces. La particularité, c'est que, un, c'est pas abordable à tout le monde. La plupart des gros, ce sont des grosses entreprises qui se positionnent. Ensuite, c'est un marché où très rapidement, il y a eu énormément d'acteurs. On est passé de très très peu de plateformes très utilisées à énormément de plateformes qui vont commencer à se battre sur un marché et il y aura probablement à la fin un oligopole, c'est-à-dire deux ou trois grosses plateformes qui détiennent le gros du marché, comme dans la plupart des marchés de ce monde d'ailleurs. Et pour finir, comme c'est un marché secondaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés secondaires sont vraiment très strictement régulés dans le monde de la finance traditionnelle. Aujourd'hui, les NFT ne sont pas encore régulés, ils ne sont pas encore définis par la loi. On doit encore avoir une interprétation juridique pour savoir qu'est-ce qu'un NFT, est-il assujetti à la TVA ou non, comment ça fonctionne, est-ce qu'on a le droit de le racheter, le revendre, de faire des profits, comment sont-ils fiscalisés. Et donc tout ça, ça va se clarifier très rapidement. Très rapidement, 6, 12, 18 mois, je ne sais pas, mais ça va arriver. Et quand ce sera clarifié, il y a de grandes chances qu'il y ait besoin d'une régulation, voire même d'une licence pour proposer un marché secondaire. Et à ce moment-là, pour pouvoir émettre sa marketplace, ce ne sera pas aussi simple, alors qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer sa propre plateforme. Donc il y a différentes plateformes aujourd'hui qui proposent plus ou moins de frais. Comme tout le monde se fait la guerre pour prendre des parts de marché, un utilisateur peut aller à l'endroit où ça coûte le moins d'échanger ses NFT, par exemple. Il y a également certaines plateformes qui vont couvrir une blockchain A, une blockchain B, alors que pour échanger des NFT sur une blockchain C, il faudra aller vers une autre plateforme. Donc on est vraiment au début, il y a une grosse émulsion, mais pour le moment, ça semble plus être une tendance pour les entreprises qui ont déjà des communautés et qui peuvent essayer de rentrer dans cette fameuse course à la marketplace la plus utilisée.
Claire, on a fait le tour ?
Non. Ouais, on a presque fait le tour. Moi, je crains quand même une forme d'essoufflement hein, sur ce marché, parce qu'il y a une telle hype qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs se positionner. Alors, tant des grandes entreprises qui créent des NFT que des plateformes d'échange centralisées qui créent leur propre plateforme aussi. Et la vraie question, ça va être est-ce que les volumes vont suivre ?
Oui, on continue du coup à faire de la pédagogie autour de tout cela, essayer de voilà participer à apporter un maximum d'éclairage grâce à notre Dream Team sur BFM Business, le vendredi les pros des cryptos, et désormais aussi du lundi au jeudi, le club BFM Crypto, notre nouveau rendez-vous quotidien consacré à tout cet univers. Il faut d'autant plus en faire de la pédagogie qu'il reste quelques arnaques quand même dans cet univers. Le FBI a ouvert une enquête contre les créateurs du projet SafeMoon, la crypto-monnaie qui promettait des retours faramineux mais qui a plongé depuis son pic au mois de mai dernier. Plusieurs accusations donc de fraude et d'arnaque. En détail, Owen, quelles sont ces accusations portées à l'encontre des créateurs de SafeMoon ?
Alors déjà, quand on entend parler d'un projet où l'une de ces pièces, ce sont justement des retours faramineux, normalement, ça ne doit pas être dans la proposition de valeur d'une quelconque crypto-monnaie. Alors, cette crypto-monnaie est très longtemps discutée. Beaucoup de gens l'ont considérée comme une arnaque, mais sans preuve réelle pour le moment. Et il y a eu une grosse hype communautaire. Une très grosse tendance. Aujourd'hui, il y a des accusations, principalement d'un utilisateur qui s'appelle Kofidzilla, qui a fait une vingtaine d'allégations contre SafeMoon. Pour le coup, il y a un début d'enquête du FBI directement sur cette initiative et on parle de fausses informations distribuées aux investisseurs, donc de manipulation des investisseurs, de fraude et de vol de fonds. La particularité, c'est qu'il y a des fois des moments où il y a du liquidity providing, c'est-à-dire l'argent de la communauté qui passe d'un smart contract à un smart contract, et sans vraiment comprendre comment et pourquoi il y a une perte de valeur. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas autant d'argent d'un premier contrat à un second. Les fans de vin et de spiritueux connaissent peut-être la fameuse part des anges. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Il y a une part des fonds qui disparaissent. On n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et pour le coup, différentes enquêtes ont démarré. L'enquête n'est pas terminée. On n'a pas le fin mot de l'histoire. Mais il semblerait bien qu'on ait de la suite, qu'on ait des informations très bientôt sur la suite de cette affaire.
À suivre. On assiste à plusieurs types d'investigations et d'enquêtes. Claire, ici, il s'agit du FBI, là, de la SEC, le gendarme des marchés américains. On a vu, par exemple, le procès de la SEC contre Ripple. Pourquoi plusieurs types d'investigations et d'enquêtes et quelles sont les différences et conséquences de...
Alors, le rôle du FBI et de la SEC, c'est pas du tout le même. Hein. Le FBI va aller regarder les véritables fraudes. Va aller regarder, par exemple, les rançons en Bitcoin dans des ransomware, va aller regarder les véritables arnaques, la volonté de voler de l'argent aux gens, tout simplement. Donc, ce sont des enquêtes très, très spécifiques. La SEC, c'est différent. Hein, donc, c'est la Securities and Exchange Commission. Leur travail, c'est d'aller étudier la qualification des crypto-monnaies, des tokens, pour voir si ces cryptos sont ou non des titres financiers, des securities. Donc, ils vont pas aller regarder si les projets sont des arnaques, ils vont aller regarder la qualification de ces jetons. Et donc là, en l'occurrence, sur Ripple, ça fait un petit moment que ça dure. Hein, la SEC considère que le XRP, qui est donc le jeton, la crypto-monnaie de Ripple, devrait être considéré comme une securities, et donc Ripple est dans l'illégalité puisqu'ils ont vendu ce jeton sans l'avoir enregistré au préalable auprès de leur service. Il y a quelques mois, la SEC avait aussi demandé à Coinbase de retirer son produit de lending, justement parce qu'elle considérait aussi qu'il s'agissait d'un produit financier. Donc ce sont des types d'enquêtes assez différentes. Dans un cas, c'est comme on dirait en France, c'est vraiment du pénal, hein, c'est de la fraude. Et dans l'autre cas, c'est voilà, c'est plus du droit des affaires.
Réglementaire.
Exactement.
Ouais. Cette question qui quand même préoccupe chacun des investisseurs en crypto. C'est cette question, peut-être, qui ouvre la journée de chacun de ceux qui nous écoutent. Le Bitcoin est roi aujourd'hui dans l'univers des cryptos, mais pour combien de temps ? Devra-t-il, pour rester roi, apprendre à se transformer, se réinventer, passer, pourquoi pas un jour, au Proof of Stake ? Vous savez qu'il existe deux principales méthodes pour sécuriser les blocs, le Proof of Work, d'une part, minage par l'énergie, puis le Proof of Stake, d'autre part, création de blocs par preuve d'enjeu. En pleine discussion sur la future réglementation européenne, le site allemand Netzpolitik a obtenu des documents confidentiels sur l'état des discussions au sein des instances européenne. Et dans ces documents, il est précisé que si l'Ethereum est capable de passer au Proof of Stake, passer donc du Proof of Work au Proof of Stake, le Bitcoin pourrait faire de même, d'autant que le Proof of Stake, lui, est beaucoup moins énergivore, en tout cas sur le papier. Sérieusement, Owen, le Bitcoin pourrait, d'après vous, faire sa mue et passer un jour au Proof of Stake. Le roi pourrait, pour rester roi, réformer son royaume.
Alors, pour répondre à cette question, il faut répondre sur deux axes, le techniquement et le moralement. Techniquement, il serait possible, si tous les utilisateurs de ce réseau, si tout le monde était d'accord pour faire évoluer Bitcoin vers un proof of stake, il serait, je pense, techniquement réalisable à mettre en œuvre. En attendant, c'est sans comprendre la proposition de valeur de Bitcoin. Parce que moralement, non, ce n'est pas possible. En tout cas, à l'heure actuelle, avec les valeurs que porte Bitcoin, faire passer Bitcoin d'un work à un proof of stake, ce serait simplement reconnaître que l'on n'a pas compris pourquoi Bitcoin avait été créé et que l'on n'a pas compris pourquoi le proof of work propose et a une proposition bien différente du proof of stake. Le proof of stake est peut-être très utile sur Ethereum parce qu'il est très scalable, très peu énergivore et qu'il permet donc une programmabilité et des usages les moins coûteux possibles et qui permettront du coup de réaliser beaucoup, beaucoup de use cases sur l'écosystème Ethereum. Ce n'est pas la proposition de valeur de Bitcoin. Sa proposition, c'est justement cet accès invulnérable, ce réseau décentralisé, et rien n'est aussi sécurisé qu'un proof of work. Faire évoluer, déjà que l'Union européenne pense qu'elle peut proposer au Bitcoin de passer sur du proof of stake, ça veut clairement dire qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'était Bitcoin, comment ça fonctionne et quelle est son histoire depuis 2009. Et ensuite, ce serait juste penser que proof of work, proof of stake, c'est la même chose. Non, le proof of work et la taille du réseau Bitcoin aujourd'hui en fait la monnaie, la crypto-monnaie la plus inviolable du réseau et la plus décentralisée, où aucun gouvernement, aucun gouvernement ou aucune grosse entreprise ne pourrait prendre le contrôle et prendre la main sur ce réseau. Il appartient à ses utilisateurs et à ses différentes personnes qui participent à sa sécurisation. Le proof of stake, bien que plus efficace sur certains points, n'a aucun comparable d'un point de vue de la sécurité et d'un point de vue de ce que Bitcoin propose aujourd'hui sur le réseau.
Sauf que Bitcoin n'est pas seul en son royaume, c'est pas le seul service en proof of work. Est-ce qu'il existe beaucoup d'alternatives et est-ce que elles sont ces alternatives aussi efficaces que Bitcoin en proof of work?
Alors, il y en existe. C'est vrai que la plupart des nouvelles crypto-monnaies ont plutôt tendance à se créer sur du proof of stake. Mais il existe bien sûr d'autres crypto-monnaies en proof of work. Alors, pour moi, elles sont principalement de deux types. On voit celles qui essayent de ressembler à Bitcoin ou qui se sont créées à partir de Bitcoin. C'est le cas, par exemple, de Bitcoin Cash. C'est le cas de Litecoin. Donc, ce sont des crypto-monnaies qui ressemblent à Bitcoin, mais qui ne sont clairement pas aussi puissantes que Bitcoin et qui ont une proposition de valeur qui est finalement assez peu différenciée par rapport à Bitcoin. Puis il y a un deuxième type de crypto-monnaie, ça va être les Monero, les Zcash, qui vont proposer de pouvoir faire des transactions moins traçables, un peu plus anonymes, si je le dis grossièrement, hein, par rapport à Bitcoin. Donc là, c'est une proposition de valeur, effectivement, qui est différenciante. Elle fonctionne aussi en proof of work, elle ne plaise pas du tout aux régulateurs. On peut s'interroger quand même sur la pérennité de ces protocoles-là avec l'arrivée de ce qu'on appelle les secondes couches, vous savez, sur Ethereum, qui vont permettre de faire beaucoup de transactions et qui vont, elles aussi, utiliser des technologies similaires à ces fameux protocoles et donc permettre aussi une anonymisation des transactions.
Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. On voulait aborder une dernière thématique, mais je vous propose de la garder pour la semaine prochaine, d'autant qu'elle est passionnante. Donc il faudra absolument qu'on l'aborde, hein, cette thématique. Gardez-la bien au chaud. On réserve le suspense à tous ceux qui nous suivent, vous suivent fidèlement chaque vendredi. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés une nouvelle fois. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Merci beaucoup. Owen Simonin aussi, sa société Just Mining et sa chaîne YouTube Asher. Un grand merci aussi, on le salue, à Vincent Gann, analyste technique indépendant. Et vous savez que les pros des cryptos, c'est toujours chaque vendredi, puis désormais aussi les autres jours de la semaine, du lundi au jeudi, à la même heure, aux alentours de 16h30 sur BFM Business. Vous retrouvez le club BFM Crypto avec le reste de notre Dream Team, toute fraîche, pour vous aider à comprendre le mieux possible, et désormais au quotidien, tout cet univers émergent. Merci beaucoup à tous les trois. Le CAC 40 toujours en repli, très très net repli d'ailleurs, d'1,9%. Le club à suivre, l'autre club, le club pour suivre le potentiel des marchés financiers. Ce sera juste après la pause, on se retrouve dans moins de deux minutes sur BFM Business.